La bande originale, c'est parti, Maggie.
Merci, Laetitia Gaillet, qui reviendra
sobre, hein.
À midi. Oui, c'est sobre, c'est bien, c'est efficace, pour une fois. À midi, elle reviendra.
Tu vas voir le retour.
voilà.
Oui, c'est la bande originale avec Leïla Kadouroudedi.
Bonjour à tous.
Frédéric Sigrix.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel
Morin.
Au clavier, Charles Ormac. Et nos invités, Déborah François et Benjamin. Ravi de vous accueillir. Merci tous les deux d'être là. Déborah François, Benjamin Biolay pour le film Fleur de tonnerre de Stéphanie Pilonka qui sortira en salle demain. J'espère, Tom. Je crains que vous n'ayez pas vraiment compris pourquoi nous les avons invités.
Oh, si, j'ai compris pourquoi ils sont là. En revanche, je vous cache pas, Nagui, que j'ai pas compris quel Benjamin Biolay on recevait ce matin, parce qu'il a une palette tellement large, on sait plus quel métier il fait. Benjamin, c'est le Rémi Bricard de la FNAC, il est dans tous les rayons. Comédien, chanteur.
Plus FNAC, enfin, mais bon.
Oui, mais
il n'y a plus rien dans les rayons.
Sur Amazon, comme ça, on ruine les petits commerçants. Alors, non, voilà, comédien, chanteur et même humoriste, voilà. Fred Sigrix, j'espère que t'as signé un CDI, parce que sinon, Benji, il va te chourer ta place. Dans une interview, Benjamin, vous avez dit à propos de François Hollande, je suis sûr qu'il doit en avoir une énorme, parce que s'il en avait une toute petite, Valérie Trier-Vellore l'aurait mis dans son bouquin. Voilà, je vous l'ai dit ou pas, à côté de...
Non.
Mais si,
c'est ça. Bah oui, je le
pense. Ah non, mais à côté, Bernard Babie, c'est François Fillon.
On parle de la personnalité, François Hollande.
Non, évidemment, c'est du figuré. On n'a pas vu chez Cultura, la FNAC, Amazon, le pack de Noël. Merci pour ce moment, plus le nom de François. Voilà. Au même titre qu'il n'y avait pas le livre de Nabila et un Becherel, ou le dernier Marc Lévy et une boîte de Smecta. Non, voilà. En attendant, vous venez, mesdames et messieurs,
régler, toi.
Pas du tout, pas
facile.
Du tout. Oh, dis donc, Leïla, attention, hein, tu me prêteras ta carte de bibliothèque. En attendant, Déborah François, Benjamin Biolay, vous venez nous présenter Fleur de tonnerre. Alors au début, je me suis dit Fleur de tonnerre, merde, on dirait une pièce avec Chantal là-dessous. Puis j'ai vu qu'il y avait Benjamin Biolay dans l'affaire et d'un coup, bah, c'est vrai que Biolay là-dessous... Ça m'a paru bizarre, tu vois, peu probable. C'est
pourquoi
comme...
pas.
Bah non,
pas.
Mais non, il y a un moment, c'est comme Brigitte Fontaine en duo avec vous, Nagui, tu vois, sur, le, non, sur la même affiche, femme et Fontaine. Voilà.
Oh punaise, non mais je.
Et si je l'ai faite. Voilà, j'en ai rien à foutre. Ce matin, on s'en fout.
Mais non, t'es un gueux d'un, toi.
Non, Fleur de tonnerre. Alors, attendez, on revient
un genre
au film.
De grand froid en plus.
On revient au film, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Fleur de tonnerre, c'est un film.
Tout le monde ne connaît pas mon nom de famille, donc si tu veux, la vanne ne marche que si on le connaît.
Mais oui, Fleur de tonnerre.
Oui, c'est mon nom de famille, oui. Femme.
Fleur de tonnerre, c'est un film incroyable qui se passe au début du 19e siècle et qui raconte la vie de la plus grande serial killer française que vous interprétez, Déborah, et donc son pseudo c'est Fleur de tonnerre. C'est vrai que j'avais l'impression d'entendre le tiercé, tu as le 8 Fleur de tonnerre, le 14 Golden Buzzer et le 17 Vichy Célestin. Donc Fleur de tonnerre, c'est son vrai nom c'est Hélène Jégado, la plus grande empoisonneuse de l'histoire, qui est aussi bretonne.
Après toi.
qui est aussi bretonne, coïncidence, voilà, je pense pas, voilà, la brune peut avoir des effets insoupçonnés sur l'être humain, la montagne ça vous gagne, mais la Bretagne c'est le bagne.
On est mort.
non,
fou.
Moi j'ai l'immunité, j'ai ma grand-mère qui était alcoolique.
Et donc mais arrête, il y a des sondages radeaux qui arrivent là dans deux jours, tu veux nous faire pourrir.
J'adore la Bretagne. Alors,
merci.
Donc Fleur de tonnerre, c'est un livre tiré d'un livre de Jean Tellet.
Non, c'est un film tiré d'un livre.
C'est un film tiré d'un livre, pardon, vous m'embrouillez, hein, Nagui. Donc l'histoire, c'est donc une serial killeuse empoisonneuse, et c'est là qu'on voit qu'il faut toujours se méfier des femmes. C'est regarder la différence entre un serial killer et une serial killeuse. Voilà, le mec, souvent, on sent qu'il veut laisser une grosse impression, il étrangle, il éviscère, il découpe, on sent qu'il y a un budget, on veut qu'on le remarque, tu vois, il y a un truc dans le pantalon peut-être à compenser, comme quoi si Guy Georges avait acheté une grosse bagnole, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Alors que la nana, le plaisir, il est pas au même endroit. Elle, son kiff, c'est d'avoir un comportement super normal, puis de mettre de l'arsenic dans la soupe, de devoir bouffer la soupe en te caressant le bide et te voir agoniser comme un con demandant ce qui t'arrive. Voilà, les nanas, elles ont le meurtre vicelard, moralité, tout ça. Les gars, quand votre meuf rentrera ce soir, vérifiez la soupe deux fois, parce que on sait jamais, il peut y avoir une petite surprise. Bref, Nagui, je sais pas si j'ai tout compris,
non,
si les auditeurs ont tout compris, si les sondages auront tout compris, non. Mais en tout cas, Fleur de tonnerre est fait pour vous, ça c'est sûr.
Moi, j'espère surtout que les Bretons n'auront pas compris.
Sur France Inter.
Non, vous n'avez pas compris grand-chose, mon cher ami.
Pas très loin, quoi. Elle a tué quand même 25 personnes, cette empoisonneuse.
Il faut préciser d'abord que c'est une histoire vraie.
Ouais.
On le découvre à la fin du film, mais si on n'a pas lu le roman, il faut quand même le savoir. C'est une histoire vraie. Elle a été guillotinée, mais on comprend tout de votre personnage, Déborah François, lorsque, dès les premières images, on voit cet enfant ramasser des baies, et sa maman lui dit « Ne touche pas à ça, c'est du poison ». Et tout de suite derrière, la petite fille veut prendre la main de sa maman, qui ne lui prend pas la main, et qui la rejette d'un point de vue affectif. Et là, on se dit... Il y a un désamour, elle a peut-être trouvé quelque chose pour se venger par rapport à la vie et tout bascule.
Et oui, il y a quelque chose d'extrêmement froid dans cette famille. Cette mère, c'est vrai qu'elle est complètement... Enfin, c'est l'anti-mère, c'est l'anti-maternité, c'est l'anti-mère maternante, ouais. Telle qu'on peut l'imaginer, telle qu'on peut la rêver.
Elle envoie au lit sans manger, par exemple.
Elle envoie au lit sans manger parce que de toute façon, elle est rentrée trop tard, donc elle trouve ça complètement normal. Et puis surtout, elle élève sa fille dans cette espèce de mystique bretonne du 19e siècle qui est très très présente. Donc pour elle, les démons sont tout à fait présents et c'est pas du tout quelque chose dont elle essaye de protéger sa fille. En fait, elle protège sa fille.
Comment il s'appelle déjà ce démon?
L'Ankou.
L'Ankou, c'est ça. A N.
On va retenir L'Ankou.
Non. Ankou. A N K O U. C'est ça. Parce que elle ne sait pas écrire non plus et elle reproduit.
Oui, c'est la seule chose qu'elle va réussir à écrire dans sa vie finalement. Elle sait pas écrire son nom. Elle sait pas lire. Elle parle que breton, pas français, mais elle sait écrire L'Ankou.
Comme Nagui, c'est pas écrire son de famille, hein, ça fait des années.
Pourtant, il est plus court, tu vois. Mais
je vous apprendrai à écrire L'Ankou.
Apprenez-moi ce que vous voulez, Déborah.
On n'a qu'une heure et demie. Hein.
Je serai un bon élève.
C'est laborieux parfois, alors bon.
Et Benjamin, vous, dans ce film, vous êtes victime des méfaits de cette fleur de tonnerre et en même temps le seul peut-être et unique amour qu'elle ait connu.
Oui, totalement épris de cette femme, ouais. Je pense que c'est un personnage très étrange, très vaporeux, mais c'est une victime collatérale. Lui n'est pas assassiné, mais son épouse en revanche.
Ouais, il se rend compte, il sait qu'elle a assassiné sa femme.
À moins qu'il soit totalement stupide, je pense qu'il est tout à fait conscient. Ouais,
Parce que c'est ça qui est un peu surprenant dans le film, c'est que les personnages, certains, voient arriver dans leur vie Fleur de Tonnerre, qui d'ailleurs régulièrement cette phrase dit « Je suis poursuivi par la mort, où que j'aille, les gens meurent ». On se dit bon, c'est comme si le destin l'envoyait dans certaines familles, auprès de certaines personnes âgées ou dans certains couples, et se laisse. J'allais dire se laisse empoisonner, c'est peut-être pas vraiment ça, mais en tout cas, se laisse embarquer par ce côté mystique.
Ouais, cette espèce de mystique bretonne, ouais, qui est présente partout dans le film. Et puis, c'est une société très dure. La petite, elle a un destin finalement qui est assez proche de la plupart des gens de sa condition sociale. Elle est juste un petit peu plus allumée, quoi.
Voilà. Et puis, elle devient cuisinière, ce qui est peut-être pas le meilleur poste pour une empoisonneuse.
Sauf qu'elle fait le plaisir de toutes les personnes chez qui elle travaille initialement. En tout cas,
Parce que c'est une très, très bonne cuisinière. Et en plus, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose sur la mort qui est de l'ordre d'ouvrir les portes. D'ailleurs, elle lui dit à un moment, j'ouvre les portes vers l'au-delà, je leur ouvre la porte vers l'extérieur. Et elle est considérée comme une sorcière, mais aussi comme celle qui ouvre. C'est vraiment un passage. Et elle transforme la nourriture qu'elle donne et avec laquelle elle fait tant de plaisir aux, ouais, gens avec lesquels elle leur donne la vie, et ben finalement, à un moment donné, ça leur donne la mort.
Il y a des scènes merveilleuses avec Christophe Miossec qui est dans le film aussi, qui incarne cet abbé assez
d'une
magique.
Douceur, ouais. D'une grande douceur.
On y croit vraiment à Miossec en
abbé. Curé. Alors, ouais. j'ai mis quand même quelques petites secondes.
Non, mais moi, vraiment directement.
Non, après, j'ai pu. Les deux premières secondes, oh là.
C'est Miossec.
Ouais. Bah, c'est de voir quelqu'un que tu vois dans d'autres situations. Ouais, c'est un peu...
C'est sa première fois au cinéma.
Il est très très bon.
Il était dans Les Salauds de Claire Denis.
Eh bien, il m'a menti.
Désolé.
C'est ni le premier homme ni le dernier, Déborah. Désolé.
Je suis tellement naïve, Nagui.
On peut toujours l'empoisonner, Déborah. Il reste la mort au rat, éventuellement, si vous voulez vous venger. En tout cas,
je prends sa sœur, en tout cas.
Tu peux faire son catering, prochaine tournée.
Discrètement.
On en parlera avec lui directement, puisqu'il sera notre invité ici le 21 février, Christophe Miossec.
Et en tout cas, cette femme assez fascinante a tenté de tuer, je crois, 37 personnes et elle a réussi à en tuer 25.
Selon les estimations
les organisateurs.
Oui, c'est ça. La préfecture monte jusqu'à une soixantaine parce que c'est vrai que comme il y avait à l'époque prescription, on n'a pas pu retrouver tous ces meurtres. Puis elle-même, il y en avait qu'elle avait oublié parce qu'elle a tué sur une durée de 25 ans.
Ce qui est incroyable à vous voir fraîche, pimpante et mignonne autour de cette table.
Ne mentez pas aux auditeurs, c'est pas parce que c'est de la radio.
Non,
mais c'est bientôt les chiffres. Il faut leur vendre du rêve.
On est d'accord. Elle est voilà, vous êtes fraîche et mignonne. Quand je repense aux scènes du film, ouais. Alors, entre la lumière, le regard, la méchanceté que vous pouvez avoir dans certains regards, notamment quand vous dites mange. Il y a des moments où vous faites peur. C'est incroyable ce jeu que vous avez pour rentrer dans le personnage. Vous êtes inspiré de qui, de quel film, quel référent pour jouer la méchante à ce point-là?
Je m'inspire rarement de films, mais en tout cas j'ai été consulter plusieurs psychiatres différents pour pouvoir avoir un peu une idée un peu plus concrète et un peu plus réaliste en fait de ce que c'est une psychopathe qui est aussi sociopathe sur les bords.
Donc vous êtes allé voir des psychiatres en leur disant quoi exactement?
Je suis allée voir un psychiatre qui est spécialisé dans la souffrance de l'enfant pour comprendre un petit peu d'où tout ça pouvait venir. Les racines un petit peu du mal. Et je suis allée voir une autre psychiatre qui est spécialisée dans la criminalité des femmes. Et du coup, voilà.
Alors qu'avez-vous appris? Racontez-nous.
Ben, j'ai appris justement la nuance, en fait. Le fait que quelqu'un qui tue pendant 25 ans, on ne voit pas que cette personne est folle. Ça ne se voit pas sur son visage quand elle arrive. C'est pour ça qu'il y a plein de moments où je suis extrêmement douce dans le film, où c'est quelqu'un qui peut avoir l'air complètement normal, mais des facteurs extérieurs, la pleine lune, le stress, certaines paroles prononcées en sa défaveur, ça peut provoquer tout un coup une crise et ça peut l'exciter et réveiller ses tendances psychopathiques chez elle, en fait.
Et de l'impact de l'éducation ou des rapports, en tout cas de sa mère sur Fleur de Tonnerre, puisque c'est elle qui l'avait surnommée comme ça.
Oui, j'ai eu des quelques conversations à faire froid dans le dos sur ce que sa mère avait pu faire à cette petite fille. Mais je vais pas te déprimer tous vos auditeurs, mais c'est vrai que voilà, qu'une mère qui n'a aucun contact déjà physique avec son enfant, qui ne la protège pas, on pense qu'elle ne l'a pas protégée non plus contre les amis de ses parents qui pouvaient éventuellement faire tout ce qu'on peut faire de
abuser.
Mal à un enfant.
Oui.
Voilà, forcément, un parent qui ne protège pas et qui du coup devient complice de ça, en fait, c'est extrêmement grave, surtout quand c'est la mère.
Et dans ce désastre, ce qui est beau justement, c'est la relation amoureuse que vous entretenez avec le personnage incarné par Benjamin Biolay, justement, c'est ça, c'est l'idée qu'elle peut être normale, en fait.
Oui, elle peut être normale et elle a même très envie, elle l'essaye, en fait.
Rappelle-moi combien de personnages.
Elle va jamais trouver comment l'aimer, en fait, cet homme.
Oui.
Non, mais c'est lui, d'ailleurs, tombe amoureux de celle qui a tué sa femme. Donc, je pense que les deux se retrouvent à un endroit un petit peu.
Définition de la normalité pour Leïla Kaddo. Hein.
Voilà. Mais non, mais c'est pas
si elle avait connu. Si elle avait connu
je
l'amour.
Mes trucs, Leïla.
Est-ce que si elle avait connu l'amour plus tôt, ou si l'amour avait pu
apparemment, elle l'a connu assez tôt avec les amis de ses parents.
Oui, non, c'était pas de l'amour.
On a dit quand c'est bien fait.
Est-ce que tout aurait changé dans sa vie? Si elle avait eu justement de l'amour. Mettez-vous sur silencieux, s'il vous plaît.
Je pense que moi, je suis assez de l'avis de Stéphanie Pilonka sur ce sujet-là. Je pense que la résilience, en fait, n'est pas offerte à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se relever tellement ils ont été brisés, en fait, dans leur vie, quoi.
J'ai dit à quel point vous étiez brillante dans votre jeu. Je voudrais souligner le jeu de Fleur de Tonnerre, mais enfant, Blanche, oui. La petite Blanche, elle joue, mais c'est incroyable, oui. le naturel, la justesse de cette fille qui s'appelle Blanche François, donc on pourrait croire que c'est de votre famille.
Oui, en plus c'est très dur de trouver une petite fille, c'est vrai quand
qui s'appelle François.
Quand la réalisatrice m'a dit j'ai trouvé une petite fille, elle s'appelle Blanche, déjà je me suis dit mais Blanche c'est génial pour une serial killer, et elle me dit elle s'appelle Blanche François. Et là, je me suis dit, bon, c'est forcément elle.
C'est un signe.
On s'est rencontrés, elle est super. Et en plus, il y a vraiment une forme de mimétisme entre son jeu et le mien, dans le film, je trouve, qui fait qu'on a parfois vraiment le même regard, la même folie dans le regard.
Et donc cet enfant va être suivi quand même sur... Cet enfant va être suivi.
La petite qui a joué?
Oui, parce que si elle a commencé
à... Elle va être suivie par des agents et par des réalisateurs, à mon avis.
Et du coup, si elle joue comme vous, vous allez la supprimer comme dans le film ou pas?
Non.
J'attends qu'elle grandisse.
Saluons aussi Catherine Mouchet, trop rare au cinéma, qui joue votre maman et qui est juste bluffante. Christophe Miossec, on l'a dit, Marthe Guérin-Kaufmann, Xavier Mathieu, Philippe Pasquini.
Gustave Kervern.
Et Gus, oui, parce qu'il faut préciser que Stéphanie Pilonka est la douce et tendre épouse de Gus, qui a co-signé scénario, adaptation et dialogue de ce roman de Jean Tellet. Lorsqu'on vous a annoncé la venue de Déborah François et de Benjamin Biolay, vos oreilles ont sifflé.
Oui, et immédiatement, quand j'ai pensé à vous, Déborah, j'ai revu un film, Mes chères études. Un film d'Emmanuel Berco, où vous incarniez une étudiante qui peine à s'en sortir financièrement, avec ses petits boulots pour financer son année universitaire, et qui décide, un jour, qui tombe sur une annonce, plutôt, et qui voit que, pour passer... une heure avec un homme, lui donner un peu de chaleur, elle serait payée une centaine d'euros et elle hésite, elle finit par y aller, et un peu plus que 100 euros même, voilà, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et se disant qu'elle m'irait...
Vous voulez battre du tarif ou quoi?
Oui, bien sûr.
Et, bref, elle se prostitue.
Bah, ça compte.
Hein. Oui, et elle se dit qu'elle le ferait qu'une seule fois, et ensuite c'est l'engrenage.
Cette tendresse pour le personnage, j'aime vraiment ce personnage me touche vraiment. Et je voulais pas qu'on puisse justement la condamner trop facilement. Je voulais dire, regardez, c'est pas facile de juger quelqu'un.
Qu'est-ce qui vous a autant touché dans cette jeune fille? Parce que vous la défendez beaucoup.
Oui.
Vous dites la comprendre particulièrement.
Oui, 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 je la comprends parce que je pense que quand on n'a pas été dans cette situation, je pense que toutes les situations sont différentes et qu'on peut pas, voilà, juger en fait les gens comme ça tant qu'on n'est pas dans cette situation. Et c'est important. Justement, ça me rapproche aussi de l'histoire de Fleur de Tonnerre. Il y a quelque chose où j'aime qu'on comprenne mes personnages. Ça veut pas dire qu'on les aime. Ça veut pas dire
qu'on cautionne
exactement ce qu'ils ont fait ou la situation. Mais ça veut dire en tout cas qu'on peut arriver à comprendre. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend, on n'est plus dans l'accusation. Et c'est ce qui nous manque, quoi, en fait, dans le monde, dans la société, je trouve. Donc si très, très modestement, moi, je peux faire ça à travers mon métier, ben, j'en suis contente.
Et donc, un personnage que vous ne parviendriez pas à comprendre, vous ne pourriez pas le jouer?
Oui, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes moraux avec, par exemple, ce que racontait tout un film, toute la morale d'un film ou ce que racontait un personnage. Et si moi-même, j'arrive pas à comprendre et que vraiment ça me dégoûte, je suis incapable de jouer.
Alors, pardon, c'est la limite de votre métier, parce que votre métier est de jouer un rôle décidé, écrit, réalisé, mis en scène par une équipe et par différentes personnes.
Oui, mais après, je suis...
Et pas de juger.
Bien sûr, mais moi, je suis une interprète. J'ai le droit quand même, en tant qu'interprète, de choisir ce que moi je peux mettre en avant ou pas, parce qu'après tout c'est quand même, les gens vont quand même voir ma tête, vont quand même me voir moi et vont quand même penser que quelque part je cautionne ou qu'en tout cas il y a une raison pour laquelle je fais ça, donc je ne me sens pas liée et obligée en fait de tout tourner.
Non mais je reviens sur le fait que comprendre n'est pas cautionner.
Heureusement j'ai cette grande liberté, oui. Bien sûr, mais parfois je ne cautionne pas,
ce qui est
mais
le cas
contre,
d'une série
comprends
killeuse,
et j'ai
mais
envie
comprendre.
De faire comprendre aux gens. Parfois je n'ai même pas envie de faire comprendre aux gens, ça peut arriver.
D'accord. Et quand j'ai hâte d'avoir les titres des films en question.
Je crois qu'il y avait Bienvenue chez les Ch'tis. La vie dans le Nord, vous ne vouliez pas cautionner ça.
Titanic aussi, le mal fait à l'iceberg, tout ça, elle n'assumait pas.
Ouais. Et quand je pense à vous, Benjamin, j'ai instinctivement un réflexe. J'écoute une chanson, je suis venue vous voir à l'Élysée-Montmartre récemment, c'était en décembre. Et là, c'est Miss Miss qui est dans votre dernier album, Palermo Hollywood.
Miss Miss, je t'ai dans la peau tout entière. Tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois l'analyste, je me rapproche de la terre. Mourir c'est trop triste, c'est oublier tout entière. Je ne peux pas me passer de toi, me passer de toi.
Voilà, si vous voulez un remède à la déprime, je vous recommande cet album, je vous recommande cette chanson.
En tout cas, il te fait bouger, il te fait onduler.
Ouais, j'adore cette chanson, j'adore cet album.
Il faut dire que Benjamin Biolay fait de la musique pour faire bouger les jolies filles.
Pas que,
mais moi je sais.
C'est toi qui l'as dit, bravo. Mais en fait, il y a des chansons, je crois, il y a des chansons qui marquent un peu votre vie, des moments de votre vie. Moi, celle-ci, elle fait partie de ma bande originale personnelle. Et je crois savoir que Palermo Hollywood va pas rester seul très longtemps. Il va y avoir Volver.
Ouais, le nouveau qui arrive le 19 mai.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Moi, je l'aime bien, mais je viens de le finir. Donc, ouais. Il vient de naître. Je le trouve mignon comme tout et tout. Je le change, je le nourris. Non, je sais pas, je suis très content de ce disque. C'est un peu la suite, c'est un peu une nouvelle aventure.
Toujours avec ces rythmes-là, ouais. un peu sud-américains.
Peut-être même un peu plus, en tous les cas, plus les rythmes latino-américains actuels. Et je viens de le finir, donc je suis un peu ébahi, ouais, comme une maman qui vient de donner.
Ouais, c'est ça, vous en parlez comme un nouveau-né, hein. Ouais, il est mignon, il est joli.
Oui, il n'a pas encore de pochette, il n'a pas encore de clip, il est tout petit.
Alors que comme tous les nouveau-nés, il est tout fripé, les couleurs betteraves.
Bien sûr, il ne ressemble à rien.
Mais c'est le plus beau du monde. C'est le plus beau du monde.
Tu vas être beau, vos gosses, à la naissance.
Et regarde ta photo quand t'es né, tu verras.
Quatre betteraves, devant Nagui.
Et je me posais une question, Benjamin Biolay, sur votre capacité à écrire. J'ai l'impression que vous écrivez beaucoup. Ou en tout cas, moi, ce que j'en vois, ce que vous chantez, ce que nous, le public, on peut recevoir, il y a l'air d'avoir une masse assez colossale de textes, de mélodies. Une chanson comme Miss Miss, parce que celle-ci, je l'aime particulièrement, j'aimerais bien connaître la genèse de cette chanson.
Là, c'est une guitare qui m'a inspiré, c'est bizarre. Hein. Ouais. C'est ni une fille, ni la religion. Je parle au début à une guitare, et puis après, c'est parti. Ça veut, parfois, c'est complètement abstrait, les chansons. Et cette chanson est venue assez vite. D'autres viennent de manière beaucoup plus pénible, c'est des accouchements plus pénibles. Mais j'écris, oui, une quarantaine de chansons, mais en 3-4 ans, donc c'est pas si énorme que ça, quoi.
Il y en a beaucoup que vous mettez de côté ?
Ouais, il y en a pas mal. De plus en plus.
Et vous les mettez de côté pour les ressortir ou carrément pour les jeter en disant j'y touche plus ?
Franchement, maintenant ça fait longtemps que je fais ça et tout. Quand elles sont au saloir, c'est vraiment rare qu'elles
ressortent.
Ouais, vraiment.
Et pourquoi de plus en plus ?
Parce que je m'agace de plus en plus. Je suis de plus en plus dans la redite. Déjà, c'est statistique. Plus on fait de chansons, plus on a des chances de se répéter. Mm-hmm. Et puis, je sais pas, je suis clément avec moi-même.
Il y a un nombre limité de notes en même temps.
Ça va se voir. Justement, dans votre ordinateur ou je sais pas, dans un bloc-notes, il y a vraiment le dossier à trier ou non, vous les supprimez ou les mettez à la corbeille et elles disparaissent.
Je les range quelque part. Ça s'appelle un disque dur et c'est vraiment, il y a écrit
à vendre.
Non, il y a écrit à ne pas publier et tout partout. Ah, enfin, c'est vraiment, si jamais il m'arrivait malheur, je veux surtout pas que c'est.
Genre les inédits, on vous le souhaite pas en tout cas. Pour en revenir au cinéma, vous vous situez comment dans le monde du cinéma ? Vous avez été accueilli par ce monde-là. Maintenant, c'est bon, il n'y a plus à dire je suis un chanteur qui aussi peut être comédien. Il est entendu de la part de ceux qui vous contactent que vous êtes comédien, point.
J'ai l'impression que ça a un peu changé, mais j'aime ça de plus en plus. Après, moi, j'aime énormément faire des seconds rôles aussi. C'est le seul moyen aussi de pouvoir cumuler mes deux passions, c'est de pas partir sur des films qui durent des mois et des mois.
Parce
même
que
si
c'est chronophage,
beaucoup.
Ouais.
Mais plus ça va, plus j'aime ça. Et puis, oui, je pense que je suis devenu comédien par la force des choses. En tous les cas, on m'appelle pas pour avoir le chanteur, quoi.
Et comment appréhender un métier, enfin passer d'un métier dans lequel vous êtes auteur, compositeur, interprète, éditeur, producteur, enfin en fait tout ce que vous voulez à votre rythme, dans votre confort, et arriver sur un plateau où là il y a une feuille de service et vous regardez à quelle ligne vous êtes et à quel moment pour faire quoi.
Quelle
séquence aujourd'hui et où vais-je m'asseoir en attendant et pas trop loin de la table régie.
Non, faut pas trop. En ce moment, je fais attention, je me mets le plus loin possible.
Ça fait grossir. Les tables régie font grossir.
Pour les tables régie du cinéma français, c'est quelque chose.
Une table régie, c'est la table sur laquelle il y a la machine à café, le thé, et éventuellement des bons biscuits.
Toutes les
biscuits,
voilà.
Que Papy Brossard est passé deux minutes avant.
Tout ça avec Madame Haribo qui a laissé tomber ses fraises.
Alors d'enchaîner. Mais pour finir la pub. Non, j'aime beaucoup, au contraire, être un peu pris en main, qu'on me donne un peu des ordres, qu'on me dise quoi faire, je trouve ça très agréable et je suis très content de revenir à la musique à chaque fois et je suis très content de retourner
D'accord.
au cinéma.
Ouais. Un juste équilibre.
Et dans Irréprochable de Sébastien Marnier, vous étiez absolument génial.
Je passe vraiment des bons moments à faire ce genre de rôle qu'il faut incarner, qui sont des rôles à la fois importants mais pas très présents à l'image.
Ouais, Vicky aussi, on avait vu Vicky de Mademoiselle Victoria Bedos.
Ouais. Voilà, c'était une auto-parodie.
Et c'était une auto-parodie, mais ça j'ai trouvé ça aussi très drôle d'être capable d'accepter de jouer un rôle comme ça.
Ah, on m'a décrit comment on me voyait, je dis je vais te faire ça, alors, parce que c'est très loin de...
De la réalité.
De moi, ça me fait rire. Ouais,
c'est principe d'une parodie.
Ouais, ouais.
Mais il peut y avoir un petit fond.
Il y a toujours un petit fond, n'est-ce pas ?
Il faut dire que vous incarnez une sorte de chanteur très auto-centré, totalement narcissique.
Ah non, ça c'est pas vrai. Chanteur, ça c'est vrai.
C'est de la fiction, hein, Benjamin Biolay, bien entendu.
Pour en revenir à Fleur de Tonnerre, Déborah François, y a-t-il une scène plus difficile qu'une autre à tourner dans ce film, que ce soit en termes d'émotion, de jeu ? Est-ce que c'est quand on est seul et qu'on a des démons que vous entendez la nuit, une espèce de justement ce Ankou qui se pointe et avec sa charrette pour emmener des morts.
Oui, il y a tous ces moments où on doit imaginer qu'on doit voir des choses que les gens ne voient pas, entendre des choses que les gens n'entendent pas.
C'est quoi ? C'est jouer la folle qui est difficile ?
Oui et non. C'est-à-dire que c'est jouer la folle tout en que ça ne devienne pas en fait ce dont j'avais peur. C'est-à-dire une espèce de démo d'actrice de regarder.
Comme je peux pleurer seule dans ma chambre.
Comme je peux hurler, comme je peux faire une crise d'hystérie. Ce qui est difficile, c'est de chercher le curseur en fait.
Alors,
de chercher ce qui va toucher les gens parce qu'on trouve que c'est vrai en fait. Donc moi, j'ai essayé d'aller chercher cette espèce de mini seconde en fait de suspens qu'on a tous ressenti un jour où on sent qu'on peut passer dans une zone rouge, on sent qu'on peut basculer dans une folie, dans une colère, dans quelque chose qui n'est plus du tout maîtrisé en fait. Et
sur
j'ai essayé d'aller chercher ça et de ne pas le maîtriser. Voilà.
Vous travaillez comment avec un coach? Vous répétez seul avec une caméra? Vous filmez pour voir?
J'ai une coach, hein ça peut m'arriver, mais là en l'occurrence j'ai vraiment pris ce rôle. C'était vraiment quelque chose de, c'était très perso, c'était même presque égoïste en fait. Je ne veux pas partager ce personnage avec qui que ce soit d'autre. Je fais mes notes toute seule dans mon coin. J'ai fait des notes et des notes et des notes de partout, et je l'ai absorbé dans mon corps. J'ai essayé d'avoir son attitude quand je marchais dans Paris, et puis tout ça s'est ressorti quand on était en Bretagne.
Ça a été tourné justement en Bretagne, c'était il y a plus d'un an, c'est ça, en novembre 2015 hein, que vous avez tourné ce film, extrêmement bien accueilli par la presse bretonne, par les Bretons,
oui,
les projos.
Oui, on a eu un super accueil breton.
Yeah, ouais,
on est reparti avec plein de Queen Amman et de cidre et de biscuits.
Ah, ils ne sont pas passés à l'euro là-bas, ils payent encore.
Queen Amman avec du beurre. Voilà, c'est pour du beurre.
Ouais, ils savent me parler en tout cas.
Ça sort ce 18 janvier, demain. Donc, et ça s'appelle Fleur de tonnerre. Voici l'humeur de Frédéric Siris.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, le week-end dernier, c'était le deuxième débat des primaires socialistes. Et Emmanuel Macron, alias Le Ken, le compagnon de Barbie Ménopause, a voulu tirer la couverture médiatique à lui. Oui, parce que j'ai fini par comprendre sa stratégie à Emmanuel Macron. En fait, il y participe aux primaires, mais de chez lui. Hein, dans une partouze, Macron, c'est le seul qui y participe avec une webcam. Comme ça, il se fait plaisir, mais il ramène pas la ch'touille à la maison. Donc, à Lille, Emmanuel Macron a voulu parler vrai. C'est un gros truc des politiciens, ils veulent parler vrai. Alors, traduction, parler vrai, c'est parler comme la droite. Oui, en général, quand un politicien ou un journaliste dit qu'il veut parler vrai, qu'il veut en finir avec le politiquement correct, la bien-pensance, en gros, ça signifie qu'il va dire avec des mots comptes triples ce que ton oncle réac balance à 10h du matin au café du commerce, un verre de blanc à la main. Il a donc déclaré, au risque de choquer certains, parce qu'il était en meeting, donc il hurlait, hein, « Je veux regarder en face la grande misère qui s'est installée dans ces terres de combat. Je ne veux plus entendre. J'ai encore le droit de rester un peu au chômage ou on ne me propose rien. » Car, c'est bien connu, les chômeurs sont avant tout des grosses feignasses. D'ailleurs, la première réaction quand tu t'es fait virer, c'est de demander à ta famille « Hé les enfants, on part où pour le chômage ?» Sur les 3,3 millions de chômeurs en catégorie A, le taux de fraude a beau s'élever à 0,3% d'après Pôle emploi, c'est pas grave, ça vaut quand même le coup, d'un point de vue électoral, de stigmatiser encore un peu plus les demandeurs d'emploi. En plus, un ancien banquier d'affaires qui critique les profiteurs, franchement, c'est l'anus qui dit aux narines qu'elle pourrait se laver. Hein. La veille, dans le Pas-de-Calais, il avait évoqué l'alcoolisme et le tabagisme, donc j'ai ici la liste des prochains meetings par les vrais d'Emmanuel Macron. La semaine prochaine, Emmanuel Macron parlera de nazisme et de pédophilie dans l'Est de la France. Le 6 février prochain, il parlera MST, Zouk et dépendance aux Antilles. Le 10 février encore, il parlera COPA et terrorisme. Le 13, corruption et détournement de fonds dans les Hauts-de-Seine. Le 2 mars, criminalité à Marseille. Et enfin, le 5, le prix des couches confiance à Cannes et à Menton. Bref, une formidable tournée par les vrais. Et il a raison, c'est bien que les politiciens nous parlent vrai. Et on devrait faire pareil, nous les citoyens, on devrait leur parler vrai aussi. Par exemple, on devrait leur dire, messieurs Macron, Valls, Montebourg, Payon, Fillon, si vous arrêtiez 2 secondes de nous prendre pour des cons en nous faisant croire que vous n'étiez pas au gouvernement les 10 dernières années. Je sais bien que pour vous, un électeur, ça a une mémoire de poisson rouge, et il est vrai qu'en France, on pourrait faire de la figuration dans le monde de Nemo, tant on persiste à revoter pour les mêmes abrutis, quinquennat après quinquennat. Mais tout de même, ça va finir par se voir. Vous croyez que le simple fait de sortir d'un gouvernement, ça fait de vous du jour au lendemain des hommes nouveaux? C'est un joker universel? Tiens, je vais essayer avec ma femme, tiens. Ma chérie, hier j'ai couché avec ta sœur, mais ça compte pas, parce que depuis je suis sorti du gouvernement. Je vais voir si ma femme elle est aussi con qu'un électeur finalement. Quant au cliché du chômeur profiteur, monsieur Macron, vous trouvez ça encore sérieux en 2017? Même Fillon il a pas osé la sortir celle-là. C'est du courage ça de s'attaquer à des mecs au RSA? Le forum de Davos débute aujourd'hui. C'est la rencontre annuelle de l'élite économique et politique mondiale. Et à cette occasion, l'ONG Oxfam, une organisation de solidarité internationale, a calculé que 8 personnes, 8 gars, hein, que des hommes, c'est même pas une équipe de foot, hein, 8 personnes seulement détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. 8 gars! Putain, et les gars ils sont bien cachés parce que les pauvres sont quand même vachement plus nombreux qu'eux. Hein. Bon bah excusez-moi monsieur Macron, mais s'attaquer à une injustice comme ça, ça me semble quand même beaucoup plus couillu que de s'attaquer à un galérien qui gratte 400 euros par mois. Il arrive un moment où se la raconter parce qu'on a battu une classe de primaire au bras de fer, ça devient gênant. Teddy Riner, lui, quand il fait du judo, il se bat avec des gros japonais tout musclés, pas avec la maison de retraite de Levallois. Alors je vous demande pas de faire comme l'autre d'avant et de balancer « body de bille, c'est la fidance ». Parce que vu votre pédigré, monsieur Macron, on n'y croirait pas une seule seconde. Parce qu'on fait genre, on dit rien, mais entre nous, on sait très bien que votre campagne, vous la financez pas en vendant des cookies au porte-à-porte. Hein. Non, le monde de la finance est derrière vous, on n'est pas complètement con, on le sait. Hein, pour eux, vous êtes juste une sorte de Strauss-Kahn qui sait garder sa braguette fermée. Mais je sais pas, il y a d'autres combats à votre portée. Le cumul des mandats, l'absentéisme des députés, la reconnaissance du vote blanc, le fait qu'un Patrick Balkany condamné 3 fois pour blanchiment d'argent touche toujours un salaire de député et de maire de Levallois. Des fraudeurs, monsieur Macron, il y en a partout autour de vous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Donc voilà, monsieur Macron, pour parler vrai, voilà ce que j'ai envie de vous dire. J'ai de plus en plus l'impression que vous avez de bonnes chances d'être le prochain président de ce pays. Mais bon, en face de François Fillon et de madame Le Pen, est-ce qu'il y a de quoi se la raconter? À combattre sans péril, on triomphe sans gloire.
Sans appel, Nagui, la bande originale.
La bande originale, justement, de nos invités qui sont à l'affiche de Fleurs de Tonnerre, le film de Stéphanie Pilonka qui sort demain en salle. Benjamin Biolay, Déborah François sont nos invités. On a trouvé quelques dates que vous avez en commun et on a musicalisé tout ça. Par exemple, Déborah, dans les années 87-88-89, c'est-à-dire au moment de votre naissance, il y avait ça comme musique.
Ah mais du coup dans le premier jour du reste de ta vie, Déborah, c'est votre biopic en fait, vous écoutez.
Oui, j'adore ça. J'étais petite.
Nirvana résonne dans votre petite enfance, Bartoga.
Ouais.
Bah,
ouais. C'est ça.
C'est bien.
Ouais. Ouais. On prend un petit coup là comme
c'est
ça.
Des bonnes bases. C'est des bonnes bases. Ouais, elle est bien à ce moment-là. À Liège, votre papa est commissaire. Lui, vous a pas aidé à jouer le rôle d'une serial killer, killeuse.
Non, mon père, il est désespéré que je sois toujours de l'autre côté de la barrière. Il aimerait bien que je passe en tant que flic pour une fois.
Il aurait des conseils à vous donner. Et votre maman, assistante sociale, qui travaille justement à la mutualité belge des femmes.
Oui, c'est tout ça. À fait.
Vous avez toujours voulu être comédienne. Ça s'est vu dès votre plus jeune âge, comme Blanche François, celle qui joue votre rôle petite fille, c'est-à-dire.
Bah, disons que j'ai toujours voulu l'être, mais que mes parents à l'époque n'étaient pas vraiment encore d'accord, pas encore dans l'idée de que leur fille qui était voilà née à Liège dans cette petite ville allait devenir comédienne. Ça paraissait très très lointain.
Et comment est née cette envie, votre envie?
Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, je suis une grande timide et comme beaucoup de timides, on se soigne avec l'art, mais comme beaucoup de gens se soignent avec l'art pour plein de choses.
Mais ça veut dire que vous faisiez des petites scénettes à la maison
J'ai toujours adoré les photos, toujours adoré faire des espèces de petits spectacles à mes parents, comme tous les enfants. Les enfants aiment dessiner, ils aiment faire des petits spectacles, ils chantent devant vous.
tout ça,
voilà.
À ce moment-là, Benjamin Biolay, vous avez 15 ans et vous écoutez les Smiths. Jim Morrissey.
Non, Morrissey.
Morrissey, oui, pardon. Ouais.
Jim Morrissey.
Stéphane Patrick, oui, pardon. Oh. Stéphane Patrick.
Exactement.
C'est ça, Morrissey. 15 ans, c'est la musique anglaise, la new wave anglaise était omniprésente. Vous qui jouiez à l'époque, quel instrument de musique?
Ouais, à l'époque, je jouais du trombone, du tuba.
Ce qui n'est pas très.
Non, je jouais du clavier et de la guitare aussi pour moi, bien sûr, en autodidacte. Mais ouais, je n'aimais pas la chanson française à l'époque. Je rejetais vraiment mes études au conservatoire. Avec mon cousin Jérémy, on avait monté un groupe où on reprenait quasiment que les Smiths. On avait 2-3 chansons originales, mais on faisait beaucoup de.
Et les Beatles, parce qu'il y avait beaucoup d'arrangements justement avec des cuivres.
Mais les Beatles, ça me paraissait impossible de jouer ça. J'avais jamais.
Par respect, impossible
non,
de toucher.
Non, même, ouais, à l'oreille, j'avais l'impression qu'il y avait 177 accords par mesure. Et puis en me penchant
vous
dessus plus tard, je me suis rendu.
Jouer.
Moi, je me suis.
Ça va être vexant.
Nagui, c'était le 5e Beatles.
Dans mes rêves les plus fous.
Avec les autres.
Ou les Rolling Stones. On arrive dans les années 2000, cette fois-ci, ça vous rassure, Déborah. On change de siècle. En 2004, Déborah François, écoutez. Speed of Sound de Coldplay, Vous écoutez beaucoup de musique sur les tournages d'ailleurs. Vous êtes avec votre casque dans votre loge.
Oui, et pas forcément de la musique.
Pas forcément de la bonne,
mais ça c'est tout à fait vrai, Benjamin. Et pas forcément quelque chose qui a un rapport avec le film.
C'est pas pour Coldplay que tu dis ça, Benjamin. Si on... D'accord. Et
qu'est-ce qu'elle écoutait alors?
Non.
Oh, plus, ça on... c'est bien ça. On la rassure moi.
Même si c'était pas la même maison disque.
Oh bah si quand même.
Ça compte. Hein.
Qu'est-ce que vous aimez comme musique, comme musique inavouable?
Oui, d'ailleurs, il a l'air génial.
Ouais. Comme musique inavouable, vous aimez quoi, Déborah?
Ah, mais comme musique inavouable, plein de choses. Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, plein
de choses. Il n'y a rien d'inavouable.
Jennifer Lopez,
non. Ça commence. En vrai, il n'y a rien d'inavouable.
De la musique de gonzesse.
Mais pas du tout, je suis pas d'accord.
Dites pas ça.
Je suis pas d'accord. Moi, vous mettez Beyoncé, Rihanna, j'adore.
Eh ben parfait.
Non, vas-y, non, j'adore. Non, pas là maintenant. Coldplay fait partie en tout cas de votre BO à ce moment-là, au moment où vous passez votre bac. Ou l'équivalent du bac, je sais pas, ça s'appelle le bac en Belgique.
Mais c'est l'équivalent.
D'accord. Dans l'éventualité où vous n'auriez pas été comédienne, vous savez quelle étude vous auriez poursuivie?
Je pense que j'aurais fait sciences politiques. Ça m'intéresse.
Pour être journaliste ou pour être femme politique?
Je pense que j'aurais choisi après, mais le journalisme d'investigation, ça m'intéresse beaucoup.
Ah d'accord, ouais. Super. Là, il se trouve que vous répondez à une petite annonce, vous envoyez une simple photo d'identité pour passer un casting.
Voilà, une photo, une lettre de motivation d'une jeune fille de 16 ans. Donc je sais même plus ce que j'ai mis, j'ai dû mettre des choses très bêtes.
Il y a eu pratiquement 200 filles qui ont répondu à cette annonce. Vous avez été choisie.
Oui.
Parlez d'Ardennes.
On a passé plusieurs castings, évidemment, il y a eu plusieurs sélections et au final... Voilà, ils m'ont choisi et c'était le début de l'aventure la plus incroyable de ma vie.
L'enfant, vous incarnez Sonia, une marginale dont le copain vend le bébé.
Un rôle facile.
Ouais, ce que j'allais dire. Et vous avez même physiquement souffert. Vous aviez des bleus, à force de tomber.
Je tombais beaucoup dans le film et puis j'avais demandé un jour aux Dardennes, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour tomber au cinéma? Parce que moi, je sais pas, je suis au lycée et tout ça. Il m'avait regardé droit dans les yeux, il m'avait dit, bah, tu tombes.
Non. la pédagogie belge. Ouais, tu tombes.
Donc très bien, donc j'ai fait ça. C'est vrai que j'avais des bleus, il faisait froid, enfin c'était physiquement difficile.
Un bon souvenir quoi.
Qu'avez-vous retenu justement,
compliqué.
Oui. Qu'avez-vous retenu de la manière de travailler des Dardennes? S'il y a une façon à...
Bah forcément, j'ai tout appris, parce que c'est la manière, justement, où on se met dans un rôle, où on n'est pas là pour le jouer, on n'est pas là, même si on recommence 25 fois, il ne faut pas se plaindre, il faut recommencer toujours comme si on ne l'avait jamais fait, il faut s'occuper soi-même de ses accessoires, de ses costumes.
Enfin, on ne joue pas un rôle,
c'est une rigueur,
on le vit.
En fait. C'est une exigence, en tout cas, avec ce métier, et qui m'a beaucoup servi après, moi, à me mettre cette propre rigueur, puisque comme je suis la seule de ma famille à faire ça, personne ne pouvait me donner des conseils. Donc eux, ils m'ont tout appris.
À ce moment-là, de son côté, Benjamin Biolay, écoutez. You fall in love, simple. The sky up above, simple, is caving in. Wow, you never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die. Cette période 2004-2005 est extrêmement dense, où d'ailleurs la frontière entre vie privée et vie professionnelle est un tout petit peu bousculée, parce que vous faites un duo avec Chiara Mastroianni,
un album.
Home, mais c'est un album duo, j'ai envie de dire, avec elle. Vous composez avec pour votre sœur Coralie Clément aussi. C'est là où je dis que les frontières de l'intime et de la profession sont bouleversées. Vous rencontrez des icônes, Françoise Hardy, pour aussi écrire et travailler pour elle. Vous lancez dans la bande originale de films. C'est le premier film, c'était Clara et moi.
Clara et moi, ouais, c'est vrai.
D'Arnaud Viard
avec Julie Gayet et Julien Boisselier. Et Michel Aumont.
Vous réalisez un album pour Isabelle Boulay, ce qui est le cas d'ailleurs pour le prochain.
Ouais, pour ce qui est des disques de Coralie, Isabelle Boulay, j'avais commencé bien longtemps avant.
D'accord.
Coralie, ça devait être le troisième, et Isabelle aussi le troisième, je pense.
Il y a un prochain d'ailleurs que vous faites aussi.
Je suis en train de finir là, ouais.
Voilà, pour elle aussi. C'est le confort de tout faire dans des domaines aussi différents, éclectiques, avec des générations, des styles totalement opposés, c'est là où vous vous nourrissez, finalement, c'est d'être dans tous les domaines, dans tous les milieux.
C'était enfin de retrouver la vie que j'avais avant, quand j'habitais à Lyon, je faisais mes chansons, mais je travaillais beaucoup avec Hubert Mounier aussi, de l'affaire Loustrio.
Qui nous a malheureusement quitté.
Ouais, malheureusement. Je travaillais avec d'autres artistes, et je produisais un ami qui s'appelait Philos, qui était le frère de Marie et les garçons, etc. J'ai toujours aimé... travailler en groupe, en fait. Et du coup, quand j'ai eu la chance de travailler avec Juliette Gréco, Françoise Hardy, même ma sœur, ma femme, tout ça, je me suis jeté à l'eau parce que j'aime vraiment sortir du côté complètement solitaire.
Alors, qu'est-ce qui peut vous faire refuser?
Le social de l'auteur-compositeur.
Ouais, qu'est-ce qui peut vous faire refuser un projet si tous les styles de musique vous parlent, si toutes les générations vous parlent?
Je me sens pas à la hauteur pour amener quelque chose en plus. Ouais, c'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, je vois pas ce que je peux. Moi, personnellement, t'as porté, ouais.
En 2009, Déborah, écoutez.
Ah, on est sur les trucs...
Pas du tout. Will.i.am, tu rigoles.
Pas du tout,
mais j'adore ça.
C'est un film.
Tu regardes le mec sur une note, il te fait...
Ah, sur une note, il fait une carrière.
Il te fait mal à la tête à vie aussi, quand même.
Vous qui avez l'oreille parfaite, quelle est cette note, Benjamin?
Ding, ding. Mi, do, do, do.
Il y a deux notes donc.
Sol. Mais bon, c'est bien, trois. Hein.
Ouais. Ouais. Satisfaction, trois notes.
Ouais.
Le rythme de Satisfaction, trois notes. Bref, vous aimez Black Eyed Peas, I Got a Feeling à ce moment-là. Vous aimez sortir en boîte, danser sur ces musiques-là, aller dans des full moon parties à Ibiza.
Full moon parties.
Bah ouais.
Je vais faire une confidence. Quand j'étais plus jeune, j'étais très I Love Techno. Mais ça, voilà, ouais, avec le temps, je me suis un tout petit peu calmée. Mais ouais, j'aime bien sortir, danser. Moi, j'aime la musique qui danse aussi. Donc c'est vraiment un moyen de m'extérioriser les musiques là-dessus, vraiment physiquement.
De vous défouler.
Ouais.
Très bien. Exactement. Vous décrochez en 2009 le César du meilleur espoir féminin pour Le premier jour du reste de ta vie. Quel film de Rémy Besançon, mais quel film. Qu'est-ce que j'adore.
On en parle beaucoup de ce film. C'est vrai que c'est.
Vous êtes toujours en contact avec Rémy Besançon.
Parce que comme il y a des membres de la famille de tous les âges, oui, on s'est revus de temps en temps.
C'est vrai. Embrassez-le pour moi. T'adores ce mec. Non, mais je me dis que c'est forcément un mec bien pour faire un film comme ça.
Mais c'est un mec.
C'est forcément un mec bien. Ouais. Vous remportez également le prix Romy Schneider. est-ce qu'à ce moment-là, vous dites.
Mais vous regardez pas comme ça, c'est un mec bien, j'y peux rien.
Non, mais il aime tout salir, c'est son côté.
C'est son côté Daniel Morin.
Je vous en citais, ce serait d'autres hors antenne qui sont moins bien, mais lui, c'est un mec bien.
Alors, on va reprendre la liste.
tous ces prix César, prix Romy Schneider, ça doit être grisant. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un côté inquiétant que ça arrive tellement vite, tellement jeune, en se disant pourvu que ça dure, parce que ce qu'on veut dans ce métier, c'est évidemment c'est durer, c'est pas forcément exploser trop rapidement, y compris en plein vol.
Non, mais justement, moi, j'ai pas eu ce truc-là d'exploser en plein vol parce que je me suis pas enfermée non plus dans un style. J'ai pas commencé à faire que des comédies. J'ai pas commencé à faire m'enfermer non plus à faire vraiment que du drame. Donc, je pense que le fait d'avoir des choix qui soient hyper variés, ça m'empêche un petit peu peut-être d'embêter le public. En tout cas, de m'embêter moi.
Non,
c'est
embêtez,
déjà pas
vous
mal.
Vous embêtez personne, sauf que c'est peut-être vous choisissez les rôles que vous faites, mais en même temps, vous les choisissez en fonction de ce qu'on vous envoie.
Oui. Alors, bien sûr,
est-ce que le métier vous voit aussi bien dans une comédie que dans des drames? C'est votre luxe?
Ça commence, oui. Depuis le premier jour du reste de ta vie, donc ça fait quand même quelques temps, ça s'est ouvert, etc. Après, c'est encore plus difficile, j'ai l'impression, de trouver une comédie qui vous plaise vraiment que de trouver un rôle dramatique ou un rôle important qui vous plaise vraiment. Parce qu'un beau portrait, on peut trouver, on n'a pas la chance de le faire tout le temps. Mais...
Cette même année, en 2009, Benjamin Biolay aussi est présent au César et il écoute.
Ah, tu vois comme tout se mêle, et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant.
Cœur de pirate comme des enfants, j'aime beaucoup aussi cette ritournelle.
J'adore cette chanson.
Ouais.
Puis elle m'a accompagné beaucoup.
Béatrice, elle est vraiment bien aussi.
C'est quelqu'un de formidable. Ouais. En plus, cette chanson, c'est une chanson qui m'a poursuivi. C'est pas par hasard si je l'ai mis, je rentrais dans un taxi, je l'entendais, je sais pas, elle fait partie pour moi de la bande originale de cette année-là.
Parfait. Cette année où vous êtes donc nommé au César dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour votre rôle dans Stella, vous avez dit avoir été gêné, pourquoi? Vous vous sentez un usurpateur dans ce métier?
En plus, les autres nominés étaient vraiment des très très grands. Il y avait Jean-Paul Roussillon, tout ça. Il y avait des. Oui, donc c'était un peu gênant. Et dans ma phrase, j'avais dit j'aurais été moins gêné d'être victoire de la musique. Ce qui me paraissait légitime. on l'a coupé en deux. Ouais.
vous sentez mal aimé de ces cérémonies, de ces trophées?
Non. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de. J'ai été gâté aussi. J'ai eu des trucs dès le début. Non.
Donc, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de.
Ah non, pas du tout. J'étais vraiment.
Servi.
Ouais, je suis souvent rentré bredouille, mais rien que le fait d'être nommé, c'est quand même une belle satisfaction.
Fleur de tonnerre, le film de Stéphanie Pilanca, donc avec Déborah François et Benjamin Biolay qui sont nos invités, sort demain au cinéma. On a demandé à Michel Agrapard-Delmas, Michel.
Merci Michel,
très content d'être là. C'est un petit hommage à Garcimore.
Il est brillant, ça.
Des fois, ça marche. Parce que.
Comme le film
sort demain, précisons, Michel n'a pas vu le film. Michel, vous êtes psychologue, clinicien ou clinicienne, je ne sais pas comment on peut dire.
Clinicien.
D'accord. Criminologue, auditeur à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, experte agréée par la Cour.
Je suis expert, c'est pas féminin les experts, je suis expert en cuisine, mais professionnellement je suis expert. C'est pas féminisé.
Pas ce titre-là, Michel, hein, ça peut partir,
c'est pas
attention.
Encore féminisé.
Et si on décide, Michel, de le féminiser là tout de suite maintenant.
Et si on décide de lancer Flash.
Michel, si on décide de le féminiser là tout de suite maintenant.
Non, mais pas celui-là.
D'accord.
Ah bon, pourquoi pas celui-là? On est parce que c'est comme ça, parce que
depuis
des centaines d'années,
père,
on est expert, on n'est pas expert. Je pense que la connotation experte est un peu différente et on dit toujours expert, mais c'est pas
les
important.
Connotations se changent avec
oui.
l'usage.
Oui, avec les années.
Et l'ordre établi oui. aussi.
Si on enchaînait.
Ouais, après tout. On vous a demandé de venir pour, à part le cours de français, pour nous parler de la criminalité féminine que vous connaissez bien. Est-ce oui. qu'elle a une définition? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'on peut la distinguer, on doit la distinguer de la criminalité masculine? Elle est totalement différente ou pas?
Alors, de moins en moins, parce que cette criminalité féminine ressemble de plus en plus à celle des hommes par le mode opératoire, par le choix des armes, par le choix des victimes. Actuellement, le taux de criminalité féminin monte plus vite que le taux de criminalité masculin.
Ah,
c'est-à-dire que les femmes, elles tuent proportionnellement ouais. de plus en plus vite et de plus en plus souvent par rapport aux hommes.
Est-ce que c'est
les hommes restent toujours victimes prioritaires.
D'accord, mais est-ce que c'est un désarroi social dont on a parlé tout à l'heure? C'est un problème d'éducation?
Pas seulement, je crois que c'est un peu plus... Je pense qu'il est difficile d'avoir une seule approche et c'est vraiment un travail multifactoriel. Mais vous savez, par exemple, il y a à peu près 63 000 personnes incarcérées hommes dans les prisons hommes. Il y a 2500, 2600 femmes.
On est loin de la
parité
encore.
Parmi ces 2600 femmes, 40% sont des prévenues, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore jugées. Mais c'est vrai que les femmes sont en général beaucoup moins condamnées que les hommes. Parce qu'on parle de l'excuse de féminité. De même que les mineurs sont deux fois moins condamnés, les sanctions sont deux fois moins importantes pour les mineurs que pour les majeurs.
Pour un crime équivalent...
Voilà, les femmes sont moins condamnées. Sauf, et c'est là où
ça
vous intéresse...
Déjà qu'elles sont moins payées à travailler.
Et tu dis rien à toi, Leïla.
Sauf
tu dis rien.
Les empoisonneuses.
Attends, j'attends la fin de la phrase. Voilà. Tout de suite, ces avis à l'emporte-pièce, là, sans entendre la totalité de la pensée. Allez-y,
la chère. J'ai dit à crime égal.
Pourquoi les empoisonneuses? Parce que c'est l'ombre des sorcières qui pèse encore sur ces jugements.
Donc cette histoire vraie, je le rappelle, hein, d'Hélène Jégado, qui a
ce mot sorcière, ça l'a poursuivi d'ailleurs toute sa vie.
Exactement, voilà, oui. Exactement. D'abord, est-ce qu'il y a encore des serial killers ou je vais me faire moucher encore là?
Alors, l'affaire Jégado, elle a donné lieu à beaucoup, okay. beaucoup de livres, beaucoup d'études, beaucoup d'approches. Il y a même des chansons en Bretagne, vous l'avez évoqué.
Oui.
Mais elle disait qu'elle, enfin moi j'ai eu les actes du procès, elle disait qu'elle avait tué 60 personnes. Mais elle n'a jamais avoué. Or à l'époque, je vous rappelle que la criminalistique n'était pas du tout ce qu'elle est. Les empreintes, les preuves, etc., ça existait pas. Il n'y avait pas encore les empreintes digitales. Il n'y avait pas les groupes sanguins. Il n'y avait certainement pas l'ADN dont on a utilisé seulement un siècle et demi plus tard. Et elle n'a jamais avoué. Or à cette époque, c'était l'aveu qui était la preuve fondamentale d'un passage à l'acte, sauf quand il y avait des témoins qui avaient vu quelqu'un
qu'on a pu prouver qu'elle avait poignardé quelqu'un d'autre.
Pardon. Et elle n'a jamais avoué. Alors ils l'ont condamnée
l'arsenic,
en fait. Ils l'ont condamnée à mort. Elle a donc été guillotinée. Mais il y avait quand même des doutes dans l'esprit de chacun, notamment des gens du tribunal. Le président de la cour d'assises, il avait demandé la peine de mort parce que, bon, là, il l'a donné puisque l'avocat général l'avait demandé, mais ça les gênait un peu quand même. Mais sur l'échafaud, elle a avoué.
Est-ce qu'on a connu beaucoup des tueuses en série?
Alors, en France, on n'est pas le pays des tueurs en série. En France, on n'est pas du tout le tueur des tueurs. Il y en a quelques-uns, mais nous en avons statistiquement très peu. Ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, on pense qu'il y a actuellement une cinquantaine de femmes qui sont des tueuses en série.
Et le poison, pardon, est une...
Moi, j'en ai expertisé une tueuse en série. Mais c'était pas grave parce qu'elle avait tué ses 5 maris. Mais à part ça, c'est ce qu'on appelle les veuves noires. Hein, ce sont les veuves noires. J'en ai vu une seule de femme tueuse en série. Le concept de série n'existe pas dans le droit français.
Apparemment, l'émission a été enregistrée. Je n'étais pas là.
J'espère.
Je n'étais pas là ce jour-là. Est-ce que c'est souvent le poison qui est utilisé par...
De moins en moins. Parce que l'arsenic est diagnostiqué depuis... je crois que c'est l'année où Hélène Jégado a été guillotinée, que le poison a pu être identifié dans les corps. Regardez l'histoire de Marie Bénard. Mmh. Il y a 12 cadavres autour d'elle. On trouve de l'arsenic dans le corps des cadavres. On dit, ah, mais oui, l'arsenic tient lieu d'engrais dans les cimetières. Donc, en fait, l'arsenic ne peut pénétrer dans le corps que du vivant des gens. Une fois que les gens sont morts, l'arsenic ne pénètre plus dans les cheveux et dans les ongles. Donc, vraisemblablement, elle a été acquittée. Elle a jamais été jugée. On n'en a pas en France. On a quelques infirmières.
Vous avez quand même précisé que les femmes étaient moins, à part sur les poisons, moins condamnées que les hommes à crimes équivalents. J'ai quand même l'impression, mais peut-être que je me trompe, ça choque plus une femme tue qu'un homme qui tue. Une femme, symboliquement, ça donne la vie. C'est une maman, ça soigne.
Une femme, c'est la maîtresse qui apporte du plaisir, c'est la mère des enfants.
Non, je dis ça donne la vie.
C'est aussi ça.
Ça ne la retire pas.
Non, mais je veux dire que dans l'inconscient...
C'est les hommes qui font la guerre, c'est pas les femmes.
Dans l'inconscient collectif...
Mais tu veux faire la guerre, les moi?
Non, mais franchement, sérieusement...
Je t'avais prévenu quand je faisais des...
Dans l'inconscient collectif, il y a plein d'images de la femme très positives.
Il n'y a rien de plus féroce qu'une femme qui défend son enfant, justement. C'est pas
mais,
vrai.
Non, mais en cas d'agression, c'est pas pareil. Mais celle qui attaque, celle qui
la
première...
On peut considérer comme agression beaucoup de choses après. Hein.
Non, mais je vais vous mettre d'accord en considérant l'image de la femme, mais d'ailleurs jusqu'à plus douce dans l'imagerie, en tout cas. Voilà.
Ouais. Mais ça choque pas les tribunaux.
Vous savez, actuellement, les tribunaux sont extrêmement féminisés.
D'accord. Vous dites, il y a plus de juges, il y a plus de procureurs...
Il y a beaucoup plus de juges femmes que d'hommes. Et il y a beaucoup plus d'avocats femmes que d'avocats hommes. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'on s'intéresse aux femmes en tant qu'auteurs. Alors, dans les chiffres de la criminalité, les auteurs femmes et les auteurs hommes n'étaient pas différenciés jusque-là.
D'accord. Vous publiez donc « Femmes fatales, les criminels le » approché par un expert, qui est en l'occurrence Michel Agrapard. Je vois bien, écoutez, je vous la laisse. Et vous signez également l'expertise criminelle publiée chez Favre. C'est « Facteurs de dangerosité, analyse psychologique et autres profils de victimes ».
Mais mon bouquin sur les femmes fatales parle beaucoup des empoisonneuses et des sorcières.
C'est pour ça que je l'ai cité en premier. Merci d'être venu, Michel. Merci Daniel. On voit bien que les femmes tuent en général pour des raisons particulières et qu'elles ont été d'abord victimes quand même, faut le rappeler.
Stop ! Arrêtez, monsieur Guy. Freinez votre charisme. Arrêtez de donner un tel éclat à une émission qui ne vous mérite pas. Même si aujourd'hui, c'est plutôt vous qui ne méritez pas cette émission. Tant votre propos est plat. Plat comme la vie affective de Frédéric Sigrist. Plat comme la vie émotionnelle de Leïla. Plat comme la vie hygiénique de Tom Villard. Non, arrêtez de lui trouver des excuses. La femme par nature est mauvaise, méchante, perverse, dangereuse. Et je sais de quoi je parle. Innocent comme je le suis, j'ai plusieurs fois été la victime de ces créatures sans morale, sans foi, sans compassion.
Pardon, c'est nerveux. Attends. C'est moi.
Quand je pense au nombre incalculable de fois où j'ai failli crever à cause de ces boules de vis qui profitaient de ma naïveté pour m'entourlouper, me duper, pour mieux au final m'humilier. Vous me connaissez, les amis, je ne suis qu'amour, tendresse, modestie, bienveillance, partage et solidarité. Je ne regarde l'autre qu'avec les yeux de la candeur, et bien certains, surtout certaines, en usent et en abusent. Petit, quand ma mère me mit au monde chez le boucher du village, la sage-femme, qui pour des raisons obscures m'avait dans le pif, m'emballa non pas dans des langes, mais dans une gaine à saucisse. Puis hop,
ah, c'est ça.
C'est ça, hop, direction la chambre froide, où je vécus jusqu'à mes 2 ans, me nourrissant de petits animaux et de petits rongeurs congelés. Durant l'enfance, la maîtresse me giflait avant que je réponde aux questions. Les tentatives de meurtre sont venues après, quand la nature fit de moi cette icône de désir. Furieuse à l'idée que je puisse être convoité et consommé par d'autres, certaines de mes fiancées préféraient m'imaginer mort. Un jour, je faisais la sieste dans un pré et Marie-Clotilde a essayé de me tuer en me roulant dessus avec une moissonneuse batteuse. 2 ongles arrachés, un œil crevé qui mit 3 mois à repousser. Un soir que je méditais en grand écart sur la rambarde de mon balcon au 68e... C'est pas le con, grand écart, que vous ferez.
C'est la scène, pour l'image.
Au 68e étage de mon penthouse new-yorkais, Marie Jennifer m'a poussé dans le vide. Je vais y casser, gros bleu aux fesses. Voilà la triste vérité, monsieur Guy. Le meurtre, les femmes ont ça dans le sang. Comme quoi, vos histoires de raisons particulières, de d'abord des victimes, c'est du grand
n'importe quoi.
Merci, Nadia.
La bande originale, Nadia. Sur France Inter.
Nos invités, Déborah François et Benjamin Biolay, sont là pour nous parler de Fleurs de Tonnerre, le film de Stéphanie Pilonka qui sort ce mercredi, demain, donc 18 janvier. Et nous en parlons avec eux jusqu'à 12h30. La bande originale avec Leïla Kadouboudadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Stiglitz.
Bonjour.
Don Villa.
Bonjour.
Daniel.
Bravo Daniel.
Richard Arnac qui nous accompagne au clavier. Nos Bonjour. Invités sont Déborah, François et Benjamin Violet. Pour Fleurs de Tonnerre, un film de Stéphanie Pilonka qui raconte une histoire vraie. Celle d'une femme qui a assassiné et empoisonné des dizaines de personnes, puisqu'il y a...
Les chiffres varient.
Les chiffres varient selon les organisateurs ou selon la police, comme disait tout à l'heure Benjamin Violet. C'est vrai qu'elle a fini par avouer sur la guillotine, scène qui n'est pas d'ailleurs dans le film.
On l'a transformée. En fait, on dit qu'elle s'est confessée la nuit d'avant, que la nuit d'avant, il y a un prêtre qui vient la voir, un aumônier, pour la confesser. Et ce prêtre dit donc qu'elle s'est confessée, qu'elle a compris au dernier moment.
Parce que le parti pris de Stéphanie Pilonka ne voulait pas montrer une guillotine.
Non. Et puis, je vous avoue, quand j'avais lu une précédente version du scénario avec ma montée vers la guillotine, j'ai eu un peu mal au cou moi-même. Donc,
c'est un métier de comédienne.
Mais vous êtes sensible.
Hein, la guillotine.
Si ça vous plaît pas, vous faites pas le film. La guillotine, ça vous plaît. Pas, vous
oui, c'est vrai que je suis une des actrices très très sensibles dans le cinéma.
C'est à croire que lorsque vous faites une scène d'amour, vous devez être amoureuse de Benjamin Biolay parce que...
Mais oui, monsieur.
C'est relativement plus agréable que se faire couper la tête et de monter à la guillotine.
Bah, écoutez, pas venu pour rien, Benjamin. Non,
non. Sacré compliment.
C'est moi, Benjamin me soigne, voilà. Me lave dans le film, me rafraîchit.
Je fais sa petite toilette.
C'est vrai, c'est vrai. Vous allez attirer du monde. Fleurs de Tonnerre, ce film raconte donc une histoire vraie, c'est ça que je tenais à préciser, qui a eu lieu au 19e siècle, de cette petite fille en manque d'amour, surnommée Fleur de Tonnerre par sa mère, qui était tout sauf aimante, qui lui, quand même, sans faire exprès, lui indique que telle et telle plante peuvent être de véritables poisons. Et elle s'entraîne d'abord sur une copine, puis après pour voir ce que ça fait. Quoi.
Bah, au début, elle se demande aussi si ça va marcher. C'est une curiosité tout à fait morbide d'enfant. Elle ne sait pas que ce qu'elle cueille... Elle sait que c'est du poison, mais elle sait pas que c'est de la belladone et elle essaye de les donner à une petite copine. Sa mère va s'en rendre compte et elle se rend très vite elle-même compte qu'en fait c'est la mère qu'il faut cibler et pas
du
la
coup,
copine.
Du coup, vous pourriez nous donner quelques conseils sur c'est vrai, la meilleure plante à utiliser, la plus discrète.
Bah, je peux vous dire comment elle planquait l'arsenic. Non, la belladone, c'est pas assez puissant. En fait, vous avez énormément de chances de rendre quelqu'un malade mais de ne pas le tuer.
Il faut
une dose énorme. Par contre, l'arsenic, je peux vous dire qu'on peut le planquer avec de l'angélique confite et de la poudre d'amande.
Avec modération, voilà.
Ça, c'est du conseil.
Ouais. Ah, de la frangipane, en fait.
Ne faites pas ça chez vous. On va avoir des problèmes que c'est ça. Vous êtes malade, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Imagine un mec qui le fait derrière au commissariat. Il dit oui, j'ai écouté la bande originale. Ils m'ont donné la recette. C'est comme ça que j'ai
fait. Ça achète tout, l'arsenic aussi.
Non, mais arrête! Tu vas sur Internet, c'est tout. Précisons que c'est Blanche, la petite Blanche François, qui interprète magistralement votre rôle de vous enfant. Vous arrivez aux 2/3 du film, puisqu'il y a toute cette enfance, et après vous débarquez.
Il y a quelques... au premier 2/3 du film.
au premier tiers, pardon, il y a quelques flashbacks qui arrivent, vous occupez les deux tiers du film. Christophe Mussac est également présent. Et donc, Benjamin Biolay, pour votre combienième film, Benjamin, dans votre filmographie?
Je ne sais pas.
Oh, quand même.
Je sais pas, sans doute 20 maintenant, je sais pas.
Ouais, donc ça, c'est plus une surprise de vous voir au cinéma.
Pas pour moi, en tout cas, mais...
C'est toujours un plaisir. Là, vous interprétez. Alors, il est en. C'est un grand quoi, un grand romantique.
C'est... Ouais, c'est un personnage très très
un dandy un peu.
Ouais, très vaporeux, très quasi absent de sa propre vie quoi, parce que c'est un type éduqué, c'est un type qui a une employée de maison, etc. Donc on voit que c'est un grand bourgeois. Il connaît un médecin très bien. Il est fou d'amour et. Il vit à travers cette jeune femme. C'est...
Sa femme
il aimerait lui offrir la rédemption, il en était capable.
Fleur de Tonnerre a été sa cuisinière, Fleur de Tonnerre a empoisonné sa femme, il est devenu veuf, ils deviennent amants. Tout ça fait partie de l'histoire vraie également.
Absolument. Et il a vraiment témoigné.
En sa faveur.
Il est allé voir le juge Vanier, Hippolyte Vanier et tout, etc. pour essayer de...
C'est beau.
À sortir de là, ouais.
Enfin, c'est beau, ça dépend pour qui. Ouais. Non,
c'est l'amour.
C'est beau, mais dans la vraie histoire, on pense qu'ils ont eu une longue liaison, même avant qu'elle tue sa femme. Elle ne l'a pas tuée tout de suite.
Uh-huh.
Voilà. Peut-être pas tout de suite.
C'est un meurtre motivé par...
même lui qui l'a commandité.
Dans l'actualité, le film sortira donc demain. Dans votre actualité, Benjamin Biolay, vous êtes en tournée. Ouais. Vous serez ce vendredi à Nîmes, puis samedi soir à Cannes, Mulhouse, Metz, Perpignan, Marseille, Luxembourg, Roubaix, Bruxelles. Dans quelle formation êtes-vous? C'est un piano-voix, c'est un quatuor?
Ah non, on est 6 ou 7 sur scène, on fait du bruit.
En tournée et à suivre donc un nouvel album. Voici l'humeur de Daniel Morat.
Oui. Alors j'aimerais dénoncer un acharnement.
Enfin.
Ouais, l'acharnement dont certains font preuve et qui plus est sur des personnes âgées et vulnérables. Pour preuve, ces salauds de juges de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, juge qui depuis hier continue de malmener un vieil homme dont le seul tort à 91 ans est d'avoir la mémoire qui flanche un peu. Oui, mes amis, je tiens à dénoncer publiquement le traitement inhumain infligé à ce pauvre monsieur Serge Dassault, vaillant sénateur de l'Essonne. La justice, si on peut encore appeler ça justice, lui reproche d'avoir dissimulé au fisc 12 millions d'euros en 2014. Alors, ça arrive, oh, hey. Qui ici autour de cette table n'a jamais oublié de déclarer quoi que ce soit, hein? Chaque fois que tu reviens d'Amsterdam, Tom Villa, tu penses toujours à dire aux douanes, au gramme près, combien de kilos de shit tu as dans tes bagages, hein? Non, bien sûr, des fois tu oublies 1 ou 2 kilos. Et alors, est-ce que ça fait de toi un criminel? Non, bien sûr que non. On lui reproche aussi à monsieur Serge d'avoir oublié de déclarer en 2006 31 millions. Doucement, c'est un vieux monsieur, un peu de respect. Et puis d'abord, comment voulez-vous qu'il se souvienne à 91 ans de ce qu'il a fait il y a 11 ans entre le Luxembourg et la France? Alors oui, peut-être que quelques dizaines de millions d'euros se sont évaporés dans la mémoire vacillante du fier industriel francilien. Mais peut-on lui jeter la pierre? Non, sérieusement. Vous vous rappelez de tout ce que vous avez fait transiter en 2006, Nagui? Pas toujours. J'ai fouillé dans les archives de la police au rayon trafic d'êtres humains. Eh bien, en 2006, quand vous reveniez d'Égypte en voiture en passant par l'Ukraine, vous aviez déclaré que les 3 passagères sans papier qui vous accompagnaient étaient des amis retrouvés par hasard dans un bar à Kiev. Par contre, vous avez juré ne pas savoir qui étaient les 12 autres filles retrouvées dans votre coffre, qui pourtant, dès l'ouverture, vous ont sauté au cou en criant « Ça y est, nous arrivés, nous commençons à tapiner ». Bon, voilà. Ça vous arrive, voilà, que la mémoire nous joue un tour, un de ces jours, à tous. Et puis quand la justice s'acharne, je peux vous dire qu'elle s'acharne. Hein. On vient de déterrer les vieux dossiers pour salir une fois de plus la réputation des braves gens. En 2014, un avocat a déclaré avoir utilisé un des comptes en banque luxembourgeois de M. Dassault pour acheter des voix à l'occasion d'élections municipales à Corbeil-Essonne, dont l'industriel a été maire entre 1995 et 2009. Voilà. Maintenant, tu peux plus faire des petits cadeaux à tes administrés. Tu peux plus, c'est interdit de faire plaisir autour de soi, de distribuer un peu de bonheur. Tout de suite, ça devient louche. Mais si Dassault est un mec bon et généreux et que ça enquiquine la justice, qu'elle le dise tout de suite, on ira plus vite. Est-ce que l'abbé Pierre a été emmerdé par la justice quand il est venu en aide aux malheureux? Non. Est-ce que Jésus a été mis en examen pour avoir distribué gratuitement la bonne parole? Non plus. Et puis, entre nous soit dit, la corruption, c'est juste un petit moyen pas méchant pour rajouter du meilleur à l'ordinaire. Bien sûr, ici, nous, le service public, on touche pas grand-chose, mais on se plaint pas, on se débrouille. Le technicien, si tu veux qu'il ouvre ton micro, il attend son petit billet. Et
Non mais toi, le petit billet, faut bien que t'ailles chercher ailleurs. Alors discrètement, tu fais un petit placement produit. Attention, discrètement, un truc du style. Oh bah dis donc, tiens, ce matin, je suis passé devant le restaurant McDonald's du 66 avenue d'Italie, ça sentait super bon. Voilà, un truc un peu discret. Nagui, il est encore plus fort, il est très fort. Lui, Nagui, fait ça avant la Saint-Valentin ou l'anniversaire de sa charmante épouse. Avec Nagui, tu crois entendre une marque de luxe, puis comme t'es pas sûr, tu penses à autre chose. Avant Noël, il arrêtait pas de dire des trucs chelous, Nagui, des trucs du style. Oh, je me sens bien, hyper reposé. Oh là là, c'est vrai qu'en ce moment, je dors très bien. Ah, ouais. On a pas fait gaffe tout de suite. Hein. Ou encore, oh là 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 là, mais quelle époque. Non, mais dans quel monde vit-on ? Oh, on l'a pas vu venir, celui-là. Ouais. Cadeau gratos, ça, voilà. Mais c'est juste des petites astuces de confort, de corruption. Rien de bien méchant, c'est pareil pour Monsieur Dassault. Alors arrêtons, s'il vous plaît, le harcèlement. À demain.
Merci, Daniel Morin. France Inter, la bande originale
avec Nagui. Le 15 mars prochain, Déborah François, vous serez à l'affiche également de Chacun sa vie et son intime conviction de Claude Lelouch avec Julie Ferrier et Johnny Hallyday.
Oui, notamment. Nous sommes très
nombreux. Entre autres, vous voyez du monde. Vous y faites quoi, vous, dans le film?
Alors, c'est le destin de plein de gens qui se croisent et moi, je suis infirmière. Et donc, je vais croiser pas mal de ces acteurs dont je vais soigner les bobos.
Très bien. Prochainement, alors, je ne sais pas si l'enchaînement est délicat, vous serez dans la douleur avec Mélanie Thierry dans le rôle de Marguerite Duras.
Non, ça c'est moi.
Ah, c'est vous, pardon. Ah, c'est vous.
Qui va incarner Mélanie
Thierry.
Je
ne serai pas dans le rôle de Marguerite Duras.
Non, mais vous serez dans la douleur.
Absolument.
Avec Mélanie Thierry, d'accord. Là, vous faites quoi?
Vous commencez vraiment, d'ailleurs.
Le rôle de Dionis Mascolo, qui était l'amant de Marguerite Duras.
Et dans Loup-moi, par contre, c'est vous, Déborah François.
Dans Loup-moi, c'est moi.
Rassurez-moi, d'accord. Qui jouait aux côtés de notre copine de toujours et de demain, Alison Wheeler.
Oui, que j'embrasse très très fort.
Mais nous aussi, on l'embrasse très fort.
Je croiserai à cette occasion, du coup.
Et quel est votre personnage ?
Eh bien, nous jouons deux copines qui ouvront une société de location de personnes. Rien de sexuel.
Oui, heureusement, c'est important de préciser.
Parce que personne n'y avait pensé.
Tant mieux. Personne. Je vois que vous me connaissez bien.
Mais ça existe, hein?
Oui,
sûr. Ben, ça existe au Japon.
Location de personnes, mais pour faire quoi?
Je des amis.
Faire une table,
si vous, voilà, si vous avez besoin d'un ami, d'une fausse petite copine, d'une fausse sœur.
Bon,
en l'occurrence, j'ai pas l'âge, mais d'une fausse maman.
Mais vous regardez pas Enquête Exclusive?
Location de personnes.
Pardon?
Vous regardez pas Enquête Exclusive?
Quel rapport?
Bah si, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps là-dessus.
Si vous avez besoin de berner des gens avec qui vous êtes, je peux me transformer en n'importe qui et faire croire que je suis de votre entourage.
Par exemple, tes parents sont inquiets parce que tu es célibataire.
Exactement.
Ou voilà, bah tu viens avec une petite copine ou un petit copain.
Bah oui, bah tu es avec un copine ou une copaine.
Non, mais tu loues quelqu'un pour l'occasion qui va faire un...
Mais quelquefois, il y en a qui n'en ont pas.
Bah si, parce que sinon c'est un ami que vos parents connaissent.
Non, mais je ne savais pas que ça existait. Je croyais que c'était une fiction tout ça, mais ça existe. Ok, très bien.
Alison et moi, nous nous louons.
Alors là, je veux bien venir dans la boîte louer Alison et vous. Écoutez, ce sera un bonheur. Et puis, il y a...
Tu as vraiment dit cette phrase à l'antenne ?
Il y a également L'Homme d'après. Là, vous y serez, Benjamin Biolay. Mais c'est un film qui a été tourné il y a 6 ans.
Ouais.
Expliquez-nous.
Ben voilà.
Il y a eu un problème de financement, de montage.
À mon avis, il y a eu un problème de financement, ouais.
Non, mais c'est
ou disque dur, mais...
Non, parce que c'est un film d'auteur qui est parti en production avant même d'avoir les financements, parce que les acteurs étaient libres, et puis c'est une super aventure, ouais, ça va...
Vous l'avez vu, le film ?
Non, mais j'ai peur de voir ma tête dès 6 ans, moi, c'est terrible.
Oh, ça va, 6 ans, c'est pas non plus un siècle, ça va.
Et
puis, numéro 1, c'est un film réalisé par Tony Marshall, où vous serez également avec Emmanuel Devos et Carole Bouquet.
Faites gaffe. Richard Berry, il n'y a plus Carole Bouquet, c'est Suzanne Clément, mais c'est pas grave.
Hein. Mais ça veut dire qu'il y a un moment où vous aurez plus de films dans votre filmographie que de disques dans votre discographie.
C'est... Ah bah, en faisant des petits rôles, c'est assez...
La quantité, par là. Voici le brouillon de culture pour Déborah François et Benjamin Biolay. De Leïla Kadour-Boulady.
Déborah, Benjamin, je vous sors de la promo MC Bolder, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. C'est notre brouillon de culture et on commence par un son pour vous, Benjamin. Un peu de musique.
Fuck Martinez.
Donc c'est un client mécontent de l'hôtel.
Non, c'était un type qui se présentait à la mairie de je sais pas où, c'est Too Live Crew, Live to Crew. Et c'était le Le Pen de l'époque. Donc il lui avait répondu de manière tout à fait gracieuse.
Fuck Martinez.
Fuck Martinez, des Two Live Crew, ça date de 90. Et c'est un des premiers titres de rap que vous auriez écouté.
Que je mettais dans les soirées, surtout. C'est pas un des premiers que j'ai écouté, mais quand je faisais un peu DJ, je le mettais toujours pour...
Ambiancer.
Ouais, puis il rendait les gens complètement fous.
Complètement hystérique, ça, j'imagine totalement. C'est une longue histoire que vous entretenez avec le rap, parce que vous êtes un des premiers, je crois, chanteurs français à avoir dit publiquement que vous aimiez le rap, que vous trouvez qu'il y avait une vraie poésie, un vrai talent d'écriture. Et c'était pas, il y a quelques années, c'était pas encore le cas, c'est pas très fréquent comme.
Tous les gens de ma génération le pensaient, mais après, ouais, le dire quand on est dans le cadre d'une promotion de chansons françaises, ça peut paraître iconoclaste, mais c'était ouais. vraiment vrai. J'ai une grande passion pour le hip-hop, de tous les pays d'ailleurs, pas seulement en France.
Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette musique ?
La possibilité de raconter une histoire en 4 minutes. Vous lisez l'intégralité de mon livret dans l'album, ça sera une chanson de Jay-Z en termes de caractère.
De densité.
Ouais, de densité. Ouais.
Et alors, vous parlez justement de l'étranger. Quand vous visitez un pays, je crois que vous renseignez beaucoup sur...
Tout de suite, c'est ce que je demande. Ouais, c'est marrant.
Vous achetez des albums, vous demandez ce qu'ils...
Je demande aux gens, les artistes hip-hop qu'ils aiment, et j'achète tout de suite ces albums-là. Ouais.
Et donc, ça veut dire qu'on peut imaginer à terme un album de Benjamin Biolay avec des rythmes hip-hop.
Sur le prochain album, il y a un duo avec Ilia Kouliakine de Valderamas, qui sont le groupe de hip-hop le plus célèbre d'Argentine, mais également en Amérique latine. Et là, ils ont eu 2 Grammy Awards latino. Ouais. Il y a Miss Bolivia, c'est qui va être là, qui est une artiste argentine de hip-hop. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des pays où, justement, il n'y a pas beaucoup de hip-hop ou de rap ? Parce que comme vous voyagez beaucoup...
L'Argentine était un des pays où j'en ai le moins entendu. Ouais. C'est aussi dû à cette culture et aux habitants. Il y a beaucoup d'Indios, beaucoup d'Européens, mais il n'y a pas beaucoup d'Afro-Américains ou d'immigrés africains, donc il y a peu de rap et de soul. Ouais.
Et en France, si vous aviez...
un artiste.
Des artistes, parce qu'il y a différentes formes.
Tout à l'heure, j'avais envie de passer le fils du commissaire de James Dino, qui est un artiste belge et qui est un fils du commissaire.
T'aurais été dur.
Non, j'adore cette chanson. Elle
est trop bien. Fait que la police sauf papa, bien sûr.
Ouais, j'adore.
Et quel autre artiste français en rap, en hip-hop, R&B, pourrait... en termes de texte, parce que je sais que vous êtes très
attentif.
Moi, je
trouve que c'est Booba qui écrit le mieux. Ouais. Après, je ne juge pas ses disques. Il en sort tellement que je n'écoute pas en temps réel tout ce qu'il fait. Et tout. Mais la meilleure plume, pour moi, c'est Booba. Et je trouve que Orelsan et Nekfeu aussi sont des gens qui travaillent dur et qui vont faire les choses très bien.
Et est-ce que vous connaissez Kazé ? Est-ce que vous connaissez Kazé ?
Non.
Et ben alors avec plaisir, je vous ferai découvrir Kazé parce que je pense que c'est elle qui écrit le mieux, c'est une femme en plus.
Kenny Arcana, on peut pas.
J'adore Kenny, mais on l'entend plus. Moi, Kenny Arcana.
Si, elle a sorti un EP.
Mais Kazé.
Et en plus, elle est argentine, donc.
Ça vous touche. Oui. On poursuit avec un son pour vous, Déborah.
Booba.
C'est ce que j'aime, ça, c'est Pink. C'est City Lights, c'est un des derniers titres sortis par les White Stripes. Et le clip a été réalisé par un certain Michel Gondry.
D'accord.
C'est un plan fixe en fait sur une fenêtre avec de la buée et on voit juste des doigts faire des formes.
Il a rien fait quoi en fait.
C'est pas merdé, quoi.
Ça s'appelle de l'art. Et j'ai lu que vous seriez prête absolument à tout ou presque tout pour tourner avec un Gondry. Qu'est-ce qui vous fascine autant ? Un Tim Burton aussi, je crois. Hein, ça fait partie de votre.
Mais moi, les gens qui ont des univers visuels et imaginaires dans lesquels ils arrivent à vous faire pénétrer et qui sont là aussi impressionnants. Moi, j'adore ça. Je suis une grande fan de science-fiction. Je suis une fan d'univers vraiment visuel. J'adorerais pouvoir me. Pour moi, c'est ça aussi le cinéma. Ça peut paraître paradoxal parce que moi, je fais aussi beaucoup de films qui sont extrêmement naturalistes, voire presque filmés comme des documentaires. Mais voilà, se retrouver projeté sur un écran dans une réalité qui n'existe qu'au cinéma, je trouve ça fabuleux. Et évidemment, Michel Gondry est un de ceux qui sait faire exister ça avec brio. Donc, bien sûr.
Et tourner avec un Gondry, ça se prépare, il faut se manifester, il faut en parler à,
je sais pas, agent. J'ai des adresses à me fournir, puisque je suis prête à me manifester.
Michel.gondry@caramel.fr.
C'est.
Michel64.
C'est le travail d'un agent, ça, non ?
Oui, va falloir que j'appelle mon agent en sortant d'ici encore plus. Mais c'est vrai que je suis très timide, j'ose pas forcément proposer aux gens. C'est vrai que j'ai tendance à attendre qu'ils viennent, mais j'ai plein d'envie
cinéma,
et je devrais
le
faire.
Ouais, tout est dans le désir entre le réalisateur.
Oui, mais justement, c'est difficile de se jeter au cou d'un réalisateur aussi.
Un petit dernier son pour vous, Benjamin. Je me fais un cadeau en même temps parce qu'on a une passion commune. C'est parti.
Michael Jordan is the Michael Jordan of greatness. He is the definition.
C'est Barack Obama, ça.
Of somebody so good at what they do that everybody recognizes. That's pretty rare.
Michael J. Jordan.
C'est quelqu'un de tellement bon que tout le monde le reconnaît.
Barack Obama, qui remet en novembre dernier la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine.
Obama, il est de l'Illinois, donc pour lui, Michael Jordan, c'est carrément un dieu, parce qu'il est allé au match des Bulls toute sa vie et tout. Mais ouais, je pense que c'est l'athlète suprême. Au moins des 30 dernières années. Avant, il y a eu d'autres grands sportifs comme Bob Dimon, etc., comme Jesse Owens, mais Carl Lewis, mais Michael Jordan, c'est... Puis surtout, c'est le seul comeback vraiment réussi de l'histoire du sport, parce que après 3 titres, son père avait été assassiné, il avait décidé d'arrêter la NBA, il est revenu, il en a refait 3 d'affilée.
Si on va parler de Niki Lauda, réussit.
Mais le pire, c'est que même au baseball, il avait été grave.
Niki fait même pas d'arrêt, c'est différent. Niki, il est brûlé pendant la saison et il finit la saison.
Il revient.
Voilà,
ouais.
C'est tandis que Jordan.
Mais un retour de dingue.
Bien sûr, Jordan arrête 1 an et demi pour jouer au baseball. Et tout le monde dit qu'il pourra jamais retrouver son niveau. Et c'est faux. Mais Niki, c'est absolument vrai.
C'est vrai que, et du coup, Jordan fait du sport sous d'un coup le 8e art et rend le sport quelque chose de magique. Moi, j'ai grandi avec lui.
Mais surtout, c'est un athlète qui a aidé son sport parce que je pense qu'avant lui, il y avait 10 fois moins de licenciés en France, par exemple.
De basket. Est-ce que vous l'avez rencontré?
Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ouais.
Alors, ça donne quoi, sous d'un coup, un Benjamin Biolay fan d'un Jordan?
Bah, ça bafouille un espèce de bonjour monsieur tout foireux et puis ça s'arrache direct, quoi. Voilà.
Et vous continuez à suivre les matchs de basket? Je crois que vous êtes vraiment.
Non, pardon, sans selfie, sans autographe? Sans souvenir, si.
Non, il m'a trop impressionné. Ouais. Puis on aurait dit Monsieur Propre, il avait 2 énormes anneaux à l'oreille et un cigare de 120 mètres de haut. Je me suis dit, je vais pas trop l'embêter. Et puis j'étais avec une copine qui l'intéressait beaucoup.
Donc note pour plus tard, il allait tout seul, quoi, pas avec une fille.
Ou alors
une fille
pour responsabilité.
Et vous continuez à suivre tous les matchs de NBA. C'est un truc. Récurrent, on peut pas vous coincer sur le basket américain, quoi.
Ça dépend des saisons. Des fois, je suis un peu off, mais là, il se passe tellement de choses formidables que c'est avec Russell Westbrook et James Harden, etc. C'est magnifique.
Et je finis avec un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Déborah, je vous offre un bouquin de Serge Jacquemart aux éditions French Pulp, édition Les Féroces. C'est l'affaire Dubuisson, histoire de revenir sur une femme qui tue.
Vous lirez avec papa.
Cette femme en 53 est assise dans le box des accusés. Elle a tué son amant, pardon, avant de tenter de se donner la mort. Et en fait, à travers ça, ce qui est jugé, c'est la femme libre de cette époque-là qui est très très mal perçue et très mal vue. Donc ça peut vous donner des idées pour incarner éventuellement un personnage. Et pour
on
vous, Benjamin,
des idées aujourd'hui.
Je finis avec ce bouquin aux éditions du Rocher, Déguerrant Guépi, un fauve blessé, pour fêter la disparition, quelque part, de Patrick Devers. Il aurait eu 70 ans cette année. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de ses dernières heures. Il s'entraînait à fond pour incarner Marcel Cerdan. Il était musclé au possible. Et puis, un jour de juillet 82, il finit par nous quitter.
Voici les excuses de Daniel Morin.
Alors, désolé pour tous les fans énervés de Coldplay qui auraient pu croire entendre penser que Benjamin Biolay avait dit que leur groupe, c'était de la mauvaise musique. Mais non, je vous rappelle que du fond de son cœur, Benjamin Biolay aime tous les groupes qui sont dans sa maison de disques. Désolé pour nos auditrices qui attendent un heureux événement et qui ont appris tout à l'heure qu'elles allaient accoucher de betteraves fripées. Bon, c'est pas grave les filles, ça va s'arranger. Désolé pour Tom Villa, je viens d'apprendre que Valérie Trierweiler, accompagnée d'un groupe de bigoudens très énervés, t'attend en bas de la maison de la radio.
Oh merde.
Merci Déborah François, Benjamin Biolay d'être venu nous présenter ce film Fleur de Tonnerre qui sort demain. Demain justement nous recevons Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste pour Il a déjà tes yeux. Ça sera dans la bande originale de votre matinée. Bonne journée. Plein de bonnes choses pour vos projets à venir. Merci.